Bienvenue à Escale 16-17 avec Fulgence Plat au micro. Oui, c'est vendredi la dernière avec un peu de soleil comme ça l'après-midi, ça ne peut que faire du bien. Après avoir planté le décor de l'émission, mon invité Stéphanie Charette, directrice des communications de l'appui pour les proches aidants, qui a travaillé sur le film aussi, son développement et son évolution. On va parler de Au-delà des mots, parole de proche aidant. C'est le film en salle dans tout le Québec. Voilà, on donne les différentes dates pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Si ce n'est pas encore passé dans votre localité, ce serait l'opportunité, l'occasion d'aller voir ce film qui parle. C'est pas de la fiction, c'est tellement réel, c'est réel. Je l'ai vu, c'est 70 minutes, hein, 70, 111 minutes, quelque chose comme ça, il faut le voir. Touchant, toute une poésie, ça il faut le dire, hein. Voilà, très touchant. Et puis en deuxième partie d'émission, comme tous les vendredis, c'est la chronique de Comic Book avec Tristan Lacaze qui va venir nous parler de quoi aujourd'hui. Qui sont Slam Bradley et Sally de Sluff? Voilà, lui il en sait plus que moi, si vous voulez le savoir. Restez à l'écoute, il sera avec nous à partir de 16h30. Et tout de suite, pour ne pas faire trop attendre notre invité Stéphanie Charette, je lui dis bonjour. Bonjour Stéphanie.
Bonjour, bon après-midi.
C'est moi qui vous dis ça très bien du fond du cœur. Et merci d'avoir le temps de venir parler de ce film. Moi personnellement, c'est toute une poésie, quoi, selon ce que j'ai vu, selon ce que j'ai entendu. Deux personnes, Michel et Edith, vraiment qui font... Je ne sais pas si c'était des anciens comédiens, mais belle lecture. Alors, comment le projet a été mis sur pied, Stéphanie?
Oui, vous l'avez dit, c'est la poésie. Ces deux, Edith et Michel, sont psychologues de formation. Ils ont travaillé dans le milieu pendant plusieurs années.
Oui.
Et ils ont été proches aidants de leurs conjoints respectifs pendant 14 ans chacun.
Oui.
Donc, ils ont passé à travers cette période-là qui a été parfois difficile, parfois très intense, parfois très belle aussi. Et bon, ils sont sortis de là en disant qu'est-ce qui nous reste de cette expérience-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce qui nous reste.
Oui.
Ils auraient pu faire plein de choses, mais ils ont décidé d'écrire. C'est un film qui est à deux voix, donc ils se répondent un et l'autre. Et ils se racontent leur trajectoire.
Oui.
Avec d'une façon, vous l'avez dit, avec poétique, une façon très humaine, une façon très... on dit les choses comme elles sont, mais on raconte l'humain, on raconte la vie là, par rapport à ça.
Oui.
Donc, ça en a fait un film et nous, ben, on a voulu... C'est un projet qui véhiculait un peu partout, avec lequel il se promenait dans des CHSLD, dans des hôpitaux, puis qui présentait, mais vraiment raconté.
Oui.
Puis nous, on s'est dit, c'est trop riche, il faut qu'on amène ça à plus de monde possible, puis qu'on puisse partager. Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que chaque histoire est unique. Par contre, la trajectoire, les étapes dans lesquelles tu passes, sont souvent universelles
oui.
en prochaine année. Donc, de pouvoir le mettre dans un film puis pouvoir le raconter, bien, c'est ce qu'on a voulu faire avec ce projet exceptionnel. Mmh.
Vous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce milieu-là pour aller travailler pour la directrice des communications et de l'appui pour les prochaines années?
C'est tellement une belle question. C'est rare qu'on me pose cette question-là, mais je la trouve très intéressante.
Oui.
Vous savez, je pense qu'on peut tous faire une différence.
Oui.
C'est pas seulement au milieu de la santé ou au gouvernement. Je pense que comme individu, comme société, on peut tous faire une différence à quelque part. Comment? Ben parce que moi je connais quelqu'un qui est proche aidant, puis je vais venir le soutenir ou je vais penser à lui, etc. Fait que je pense que tu sais, moi je pense beaucoup au fait qu'on peut se faire une différence dans la société, puis c'est par des gestes, des façons de faire. Donc pour moi, c'est d'utiliser mes connaissances en communication pour dire cette cause-là, on doit la faire connaître, on doit en faire parler, parce que plus les gens vont en parler, plus les gens vont la connaître,
oui.
plus on va s'assurer que les personnes qui en ont besoin vont chercher de l'aide.
Oui.
Puis à la fin de la journée, c'est ce qu'on veut, puis c'est ce qui me fait lever tous les matins, puis qui m'attire dans ce domaine-là, parce que c'est plein de rencontres encore humaines. On parle d'Edith et Michel, c'est une des rencontres les plus humaines que j'ai eu à faire, mais c'est comme ça mon travail tous les jours. Donc de pouvoir en parler sur vos ondes aujourd'hui, puis de pouvoir partager ça, c'est, c'est une grande richesse.
Oui, et puis la justesse avec les la manière de au fur et à mesure qu'il s'avançait, j'étais scotché là-dessus mon fauteuil devant mon ordinateur et puis bon, ça partait. J'ai dit mais où est-ce qu'il nous emmène?
Oui, oui, c'est vraiment ça. Hein. C'est une histoire, mais c'est la vie. Hein. À la fin de la journée, souvent les gens qui sont venus voir les projections jusqu'à maintenant nous ont dit. Si on ne l'a pas vécu, on va le vivre ou on embarque dans ce récit-là en se disant « ça pourrait être nous, ça pourrait être nos voisins. Ah, oui. Je connais quelqu'un qui a vécu ça. Je vis ça présentement. Oui. Où je pourrais le vivre, où je pourrais avoir besoin d'aide quelque part dans ma vie. Puis d'avoir des gens qui sont capables de le raconter puis qui nous touchent. Puis c'est ce qu'on nous dit souvent. Hein? Tout le monde devrait voir ça. Mm-hmm. Que ce soit les professionnels de la santé, que ce soit... les gens, les citoyens, tout le monde, on devrait tous être ça fait de nous, je pense, des gens plus ouverts, plus portés vers les autres, mm-hmm. pour pouvoir s'entraider. Puis parce que à la base, c'est ça. Hein, être proche aidant, tu te dis, bah, c'est le naturel de l'homme de pouvoir s'aider, puis de pouvoir s'entraider entre nous. Mais après ça, c'est parce que c'est pas juste ça, ça s'accumule comme rôle, puis c'est exigeant. Fait que c'est ça. Faut qu'on puisse en parler, puis on a décidé de le faire. Moi, je pourrais en parler comme j'en parle là.
Oui.
Mais quand Édith Fournier, Michel Carbonneau en parle, ben ils ont toute la crédibilité parce qu'ils ont passé par là.
Oui, oui. Mais à partir de quand, à partir de quel moment on peut se définir comme proche aidant?
C'est une autre bonne question. La proche aidance, c'est très large. Hein, parce que la définition, là, maintenant, c'est encapsulée sous une loi. Donc, il y a vraiment une loi qui a été adoptée il y a maintenant un peu plus qu'un an,
oui.
qui définit la reconnaissance de la proche aidance. Et toute personne qui offre un soutien, que ce soit permanent, que ce soit temporaire, que ce soit quelques minutes par semaine, que ce soit 20 heures par semaine, peut se considérer proche aidant. Parce que après ça, les besoins sont différents. Il y en a que pour peu d'heures, c'est déjà exigeant parce qu'ils ont plusieurs enfants à la maison, ils ont aussi un travail, etc. Puis pour d'autres, ben, donner 10 heures, 15 heures par semaine, ça peut être normal. Donc, c'est très, très large. Les gens qui viennent chez nous, ça, c'est la définition de base. Là, alors, puis ça peut être pour un handicap permanent, mais ça peut être quelque chose de temporaire.
Oui.
Ton conjoint se blesse et pendant plusieurs mois, a besoin d'assistance, etc. C'est de la proche aidance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fin. Ça ne peut pas terminer. Puis après ça, on retourne à notre vie un peu plus normale, là, si je peux mettre ça en guillemets. Mais les gens qui nous contactent chez nous à l'appui pour les proches aidants, c'est souvent des gens qui sont rendus qui donnent beaucoup d'heures par semaine, qui sont vraiment très impliqués. Puis c'est ça qu'on veut essayer un petit peu de changer parce que oui, c'est correct quand t'es à 20 heures semaine, puis là t'es très fatigué ou t'as des besoins spécifiques, c'est bien d'aller chercher de l'aide, mais des fois faut préparer notre réseau en amont, au début, plus tôt. Comme ça, quand arrivent les moments plus difficiles, ben tu sais, OK, oui, je le sais, j'ai mon travailleur social au CLSC que je peux appeler. Ah oui, j'ai une maison de répit que je peux aller chercher si jamais ça devient trop exigeant. Fait que plus tu es préparé en amont et mieux souvent le parcours va se faire.
Oui. Et quel est le mandat principal? Le mandat principal de l'organisme et l'appui pour les prochains ans? Quel est son mandat principal? Et puis, ça fait pas 10 000 ans que ça existe, hein, c'est depuis 2009.
Exactement. Oui. Ça fait maintenant 13 ans qu'on existe. Il y a plusieurs mandats. On a un mandat, premièrement, de financement des organismes communautaires. Donc, on remet à peu près 20 millions par année dans la communauté pour financer des organismes. Fait qu'on veut financer, en gros, souvent, c'est du répit qu'on va offrir parce que les proches aidants sont bien quand leur aider est bien. C'est comme ça que ça fonctionne.
Oui.
Donc, on va offrir du répit. Fait que c'est sûr que s'il est bien pris en charge, il y a quelqu'un de confiance qui les accompagne, bien, eux autres vont pouvoir souffler un peu, s'attaquer à leurs autres occupations. Donc, ça, c'est un des volets qu'on travaille. Il y a aussi un volet de service directement aux personnes proches aidantes.
Oui.
Donc, on a une ligne, la ligne Info Aidant, où on a des 25 personnes de travailleurs sociaux.
Et puis, en plus, ce qui m'a fasciné là, quand j'étais sur votre site, c'est disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures.
Absolument. Absolument. On reçoit environ 100 appels par jour. Donc, des gens qui ont besoin soit d'écoute, soit juste de parler de sa situation, tu sais, se faire comprendre, soit qui ont besoin d'informations, puis ou qui ont besoin de références. Parce qu'on a un répertoire de ressources.
Oui.
Il y en a des organismes au Québec. Là. Il y en a plus de 1500 là, qui offrent de l'aide aux personnes proches aidantes. Donc, on a un répertoire de ressources qui a ça, mais des fois, tu ne sais pas exactement ce que tu as besoin. Fait que parler à un agent, ben après ça, il va te référer vers un
conseiller, oui.
Absolument. On donne des formations aussi. Donc, on a vraiment un programme qui offre de l'aide directement aux personnes proches aidantes. Et aussi, on fait la sensibilisation, puis du transfert de connaissances, comme on fait avec ce film-là là, qu'on est en train de promener partout au Québec.
Voilà, quand je vois les chiffres, là, 42 000 proches aidants soutenus chaque année par votre organisme, par l'appui pour les proches aidants, et 300 organismes financés par l'appui, bon, Info Aidant, on vient d'en parler, c'est 7 jours sur 7, de 8h à 20h, 16,5 millions investis dans les projets, 251 projets financés et 42 675 personnes soutenues. Quel beau travail que vous faites.
Oui, mais est-ce que c'est assez? Pas encore.
Oui, bon, c'est jamais. De toute façon, c'est jamais assez. Voilà.
mais oui, vous le dites, c'est beaucoup. C'est un vrai impact. Un vrai impact dans la société.
Oui.
C'est ce qu'on essaie de faire. Mais comme je vous dis, on ne s'arrêtera pas là parce qu'il y a encore des besoins et encore des personnes qui ne sont pas soutenues. Puis on veut pouvoir. Notre objectif, c'est améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. On veut pas en laisser un qui est pas soutenu, puis c'est des fois ils arrivent à leur fin à leur fin de parcours, puis ils disent, j'aurais aimé ça vous connaître plus tôt, puis c'est eux autres qu'on doit aller, on veut parler, puis on veut pouvoir rejoindre parce que c'est là que, puis il y en a toujours qui rentrent, hein, il y a des diagnostics avec le vieillissement de la population, avec l'augmentation des cancers, etc. Fait que c'est tous les jours quelqu'un devient proche aidant, hein. Fait qu'il faut toujours se renouveler puis être là pour accueillir ce qu'ils vont vivre.
Et quelles sont vos sources de financement? Qui vous vient en aide? Est-ce que c'est le gouvernement fédéral ou bien c'est le gouvernement provincial ou bien c'est des personnes, des samaritains privés qui viennent vous donner de l'argent? Comment ça se passe?
En majorité, c'est le gouvernement du Québec qui est notre bailleur de fonds. La famille Lucie et André Chagnon ont été un bailleur de fonds pendant plus de 10 ans. À l'appui, ils ont fait vraiment une différence. On a aussi quelques partenaires privés là, qui nous accompagnent.
On dit merci à tous ceux-là. À tous.
Absolument.
Parce que là, vraiment, c'est quelque chose qui, comme vous l'avez dit, à fourrir la musique, on avance. Bon, les gens qui vivent plus longtemps, la population qui vieillit, et les gens vivent plus longtemps, bien sûr. Et puis, bon, ben, on a besoin de gens, de proches aidants pour pouvoir leur permettre d'aller de l'avant avec ça. Alors, qui vous a approché? C'est parce que vous avez vu que Michel et Edith parcourait les centres que vous, ou bien c'est Michel, c'est Edith, ou bien c'est vous qui les avez approchés pour...
C'est une rencontre, hein? Une rencontre qui était due pour la petite histoire. C'est Edith et Michel qui avaient vu il y a quelques années Marguerite Blais,
oui,
qui était jusqu'à récemment la ministre responsable des proches aidants.
Ah, oui.
Et elle lui avait parlé de son projet, puis Marguerite lui avait suggéré de venir nous rencontrer.
Oui.
Ce qu'ils ont fait, alors on a regardé, il avait fait une petite captation, là, juste une petite caméra à l'épaule du récit qu'il promenait là, dans les différents endroits.
Oui.
On est tombé complètement sous le charme un de l'autre.
Ah, qui peut pas tomber sous le charme de ça? Oui, ça c'est...
C'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Et là, on est allé, on a tourné, on est allé s'associer avec un réalisateur qui est complètement extraordinaire, Josué Bertellino, qui a fait des images avec un scénariste, Guillaume Chouinard aussi, quelqu'un qui a fait de la musique, Eric Forget, qui est exceptionnel aussi. Donc, une petite équipe, mais une équipe vraiment qui avait le projet à cœur.
Très professionnelle aussi.
Très professionnelle. Puis, Edith et Michel le disent toujours, on leur a fait faire des choses qu'ils ne pensaient pas faire parce que donc ils pensaient juste qu'on mettrait une caméra devant eux puis qu'on filmerait, mais non, on a voulu aller dans les images, on a voulu aller dans les quatre saisons, on a voulu mettre la beauté.
C'est ce qui fait que je trouve ce long documentaire, ce film documentaire là, pour moi c'est une poésie tout entière, quoi. Et quand j'ai vu qu'il y a au moins plus de 500 000 familles canadiennes qui voient l'un de leurs atteint d'un processus neurogénératif. 500 000 familles canadiennes, c'est beaucoup quand même.
C'est énorme. C'est vraiment quelque chose qui touche puis énormément de personnes. Je lisais une étude encore sur qui est sortie sur la maladie d'Alzheimer cette semaine, les chiffres sont alarmants aussi pour la suite. Ça s'en va pas en descendant, malheureusement.
Oui.
Mais il y a des cris d'alarme à envoyer sur la prévention, sur un encadrement, une prise en charge précoce aussi. Donc, c'est important. C'est important d'en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de familles qui sont touchées par une maladie neurodégénérative, puis doivent avoir le service. Et la Société Alzheimer, la Fédération des Sociétés Alzheimer, qui fait un beau travail au Québec, mais faut les accompagner.
Oui.
Ceci étant dit, c'est la clé, là.
C'est ça. Et puis, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que deux points de vue différents qui se rejoignent, deux parcours qui se rejoignent, c'est-à-dire le point de vue féminin et le point de vue masculin. Mm-hmm. La plupart du temps, c'est le point de vue des féminins qu'on entend. Alors qu'il y a des hommes aussi qui s'occupent de leur épouse qui est atteinte de cette maladie-là. Alors, Stéphane, on va parler un peu des dates qui vous restent parce que vous avez pas mal déjà parcouru le Québec.
Ah, absolument. On a fait une grande...
Pour terminer, quelles sont les dates qui vous restent?
J'ai vraiment une bonne nouvelle à annoncer, là. Donc, pour la fin de semaine, il nous reste une projection à Sainte-Foy là, qui va avoir lieu dimanche. Il nous en reste une à Sept-Îles qui va avoir lieu mardi, puis une à Baie-Comeau qui va avoir lieu mercredi prochain.
Oui.
Mais la bonne nouvelle que je veux vous annoncer en primaire aujourd'hui, c'est que pour la Semaine nationale des personnes proches aidantes,
qui a lieu
au début novembre, on va faire une ultime projection en ligne suivie d'une discussion avec Édith Fournier et Michel Carbonneau.
Et Michel Carbonneau.
Exactement, parce que partout où on a passé, on s'est fait demander où est-ce que ça va repasser, j'aimerais que telle personne le voie, etc. On s'est tellement fait demander ça. Donc, on va le rendre disponible du confort de votre foyer pour pouvoir le voir. Les informations vont être disponibles sous peu sur notre site Internet qui s'appelle appui-film.ca, où vous pouvez voir les dates là, qui restent pour la tournée, mais surtout où est-ce qu'on va donner toutes les informations pour cette projection-là. Puis j'invite les gens à en parler, à venir le voir, à jaser de cette situation-là aussi autour d'eux.
Oui.
Puis bien entendu, il y en a qui ont des besoins en tout temps, là. Puis on a toujours notre ligne, vous l'avez dit tantôt, notre ligne info aidant, c'est tous les jours, 7 jours par semaine, 8h à 8h. Fait que n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à aller chercher juste une petite oreille ou juste parler d'un élément. Ça n'a pas besoin d'être complexe, mais nos agents puis nos conseillers sont là pour recevoir ça.
Et puis, merci beaucoup. Alors, je me suis dit, mais pourquoi ne pas négocier avec les différentes maisons de production de télévision, les chaînes, là, pour essayer pour que les gens puissent aller voir ça en ligne, là-bas. Pourquoi pas? On ne sait jamais. Et ils seront intéressés parce que ne perdez pas le temps, profitez-en. C'est d'actualité, surtout quand on parle de santé mentale. C'est juste une heure de temps, une ITV ou bien je sais quoi, Radio-Canada, tout ce que vous voulez. Allez-y, n'hésitez pas. Je balance ça comme ça, quoi.
Je retiens votre idée. La vie du film n'est pas terminée parce que c'est un film qui peut vraiment aider. Puis on veut continuer à l'offrir dans des organismes et espérons à une télé, à la télé pour que le plus de personnes possibles puissent en prendre connaissance.
Merci beaucoup, Stéphanie Charest, directrice des communications et des relations publiques chez l'Appui pour le proche aidant, pour le film documentaire Au-delà des mots, paroles de proche aidant. Merci beaucoup, bon vent et puis beaucoup de courage. Le travail que vous faites est grandiose, ça, il faut le dire. Bravo à vous et à toute l'équipe.
Merci de m'avoir reçu. Bonne fin de journée.
Merci à vous aussi. Au revoir.
Au revoir.
Et si tu crois que j'ai peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai tort, attends. respire un peu le souffle d'art qui me pousse en avant. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. Et comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre, j'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivie un instant.
Sous le vent. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile et j'ai glissé sous le vent. C'est comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi.
Céline Dion et Caro sous le vent. Voilà, là je vais parler de tennis maintenant. Il y a deux personnes qui vont nous représenter quelque part là-bas. Auger Aliassine et Chapeau Valov, son ami, porteront les couleurs du Canada. Ça va se passer où? À Malaga en Espagne, du 22 au 27 novembre, pour les finales de la Coupe Davis. Voilà, c'est le Canada qui pourra compter sur ces deux-là. Et puis bon, ben, j'espère qu'ils vont revenir avec le trophée, pourquoi pas. Hein, ces deux joueurs les mieux classés à l'ATP en vue des finales de la Coupe Davis qui se tiendront du 22 au 27 novembre à Malaga en Espagne. Donc, Tennis Canada en a fait l'annonce par voie de communiqué aujourd'hui. L'organisation a précisé que Vasek Pospisil, Alexis Galerno et Gabriel Diallo aussi compléteront l'équipe canadienne. Voilà. Et l'étape éliminatoire de la Coupe Davis commencera par la présentation des quarts de finale auxquels les huit pays prendront part, soit le Canada, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, les Pays-Bas, la Croatie et l'Espagne. Et ça va se passer à Malaga en Espagne du 22 au 27 novembre. Je fais d'une pierre deux coups. En même temps, Denis Shapovalov, il était en quart de finale à l'Omnium de Stockholm en Suède. Là, il vient de s'incliner en quart de finale devant Alex de Minaur en quart. Bon, ouais, 6-7, 6-2, 7-6, 4. C'est l'Australien qui l'a écarté. J'étais bien content de voir ça hier, ce résultat qu'il allait en quart de finale. Et puis bon, ben ça c'est pas ça, il n'a pas pu continuer son chemin. Bon, le train s'est arrêté, il est descendu à la gare de je ne sais où, mais le train continue avec les autres. Et il y a son ami Félix Auger-Aliassime FAA qui remporte son premier match et accède aussi au quart de finale, mais au tournoi d'Anvers à titre de deuxième tête de série de ce tournoi là Auger-Aliassime avait bénéficié d'un laissez-passer lors de la ronde initiale. Ouais, il s'est qualifié pour les quarts de finale. J'espère qu'il va aussi se débarrasser de son prochain adversaire pour pouvoir aller au tour suivant, quoi. 6-3, 6-3 contre le français Manuel Guinard. Voilà, ça s'est passé hier. Donc, je pense bien que son prochain match va être demain, peut-être. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez-y là-bas sur le web. Tournoi d'Anvers, tennis, vous allez trouver les prochains matchs et qui sera son prochain adversaire. Voilà, à sa première de sortie sur les courts après son triomphe au tournoi de Florence dimanche d'ailleurs, il a de nouveau offert une solide performance au service. 10e joueur mondial depuis lundi. Ah, je suis content pour lui. Ah, j'aimerais bien que son ami Chapovalov aussi arrive à tomber parmi les 10 premiers. Ils vont bien rigoler ensemble, aller prendre un café ensemble, pourquoi pas. Mais ça se passe pas comme ça, comme on les aime bien tous les deux. Voilà, et puis quoi encore, il y a une qui vient de se faire exclure, l'ex numéro 1 mondial, Simona Halep, suspendue provisoirement pour dopage. L'ancienne numéro 1 mondial, Simona Halep, qui a été suspendue pour dopage, a annoncé vendredi, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'agence d'intégrité du tennis, la Roumanie a été contrôlée positive à une substance interdite lors de l'US Open. Oh la pauvre. Ancienne numéro 1 mondial, suspendue à titre provisoire, c'est pas définitif pour l'instant. On verra bien, actuellement classée 9e mondial, 31 ans, a été contrôlée positive au Roxadustat, une substance qui favorise la production endogène d'érythropéitine EPO, voilà, lors de l'US Open en août dernier, précise l'agence. Notifiée par écrit d'une violation du code mondial antidopage le 7 octobre dernier, la double lauréate en grand chelem Roland-Garros 2018 et Wimbledon 2019 a demandé à l'analyse d'échantillons. B, elle nie pour l'instant. On verra la suite. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, on va parler de comic book avec Christian Lacasse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qui sont Slam Bradley et Sally the Slut? C'est lui qui en sait mieux. Restez à l'écoute. A tout de suite.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, c'est la dernière partie de l'émission. Il est 16h30, oui, bien sûr. Et Christian Lacasse, lui, quand il vient toujours les vendredis, on a du beau temps.
Voilà, oui, voilà. Effectivement. Voilà. Effectivement. Il y a quelqu'un qui nous donne du beau temps.
Du beau temps. Alors, comme je le disais, qui sont... faut pas que je me trompe là.
Oui, il y a un nom qui peut porter à confusion.
Ah oui, oui, oui. C'est Sally Slough.
Sally the Sleuth.
Sleuth. Sally Sleuth.
Faut faire attention.
S-L-E-U-T-H. Sleuth.
Voilà.
S'il n'y avait pas de E, j'allais dire Sleuth, mais E-U.
Voilà. Faut faire attention. Je vais y revenir dans quelques instants.
Et Bradley, on parlait de Bradley la semaine.
Slam Bradley, oui.
Oui, Bradley, on parlait de Bradley. Donc, la semaine passée déjà.
C'est la deuxième partie de ma chronique portant sur l'intrigue policière et les détectives dans la culture populaire et dans le monde du comic book. Mm-hmm. Donc, cette semaine, je vais focusser sur, premièrement, un magazine, c'est-à-dire Spicy Detective, et ensuite un comic book, Detective Comics. Mmh. Premièrement, Spicy Detective, c'est en 1934 qu'est publié le premier numéro de Spicy Detective de la maison d'édition Culture Publications. C'est un magazine, un pulp magazine, comme j'en ai parlé la semaine dernière, donc 128 pages publiées à tous les mois, qui se concentre sur une formule assez simple, des histoires d'action, d'intrigue, mêlées d'érotisme. C'est une formule qui a fonctionné pendant 9 ans jusqu'en 1943.
Ah bon?
Et en 1943, le magazine a dû changer de nom pour Speed Detective.
En pleine guerre.
Voilà, et parce que ça passait tout simplement plus. Mm-hmm. Et donc, on a décidé de changer l'approche, d'être un peu moins épicé.
Oui.
Là, c'est important de préciser, quand je dis épicé, ce n'est jamais vulgaire, ce n'est jamais pornographique. Si on se fie bien sûr aux standards d'aujourd'hui, pour l'époque, c'est considéré comme hautement explicite. D'ailleurs, entre 1935 et 1937, Spicy Detective est publié en deux versions. Une version censurée et une version non censurée. Et on reconnaît la version censurée par une étoile dans le haut de la couverture. On aurait tendance à penser que la version non censurée, dans ça, tout est permis, mais pas du tout. Il y avait une ligne éditoriale très stricte pour même ce genre de publication qui est un peu plus permissive. En 1935, l'éditeur du magazine a envoyé à tous les collaborateurs de Spicy Detective des recommandations, et je vous en lis quelques-unes, je les ai traduites en français. « S'il est nécessaire pour l'histoire que la fille se donne à un homme, n'entrez pas trop dans les détails. Vous pouvez mener à la consommation réelle, mais laissez le reste à l'imagination du lecteur. » Aussi, autre recommandation, dans la mesure du possible, évitez la nudité complète des personnages féminins. Vous pouvez avoir une fille déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements, mais tant que la fille est vivante et en contact avec un homme, nous ne voulons pas de nudité complète. Et aussi, autre recommandation, assez spéciale, je trouve, un cadavre féminin nu est autorisé, bien sûr. C'est le bien sûr que je trouve intéressant. Donc, une nudité d'un cadavre, ça c'est correct. Mais pour un personnage principal vivant, il faut pas montrer ça. Dans ce genre de publication-là, à l'époque.
C'est ce qui fait qu'il y avait deux numéros.
Oui, exact.
Ouais.
Exact. Et il y avait un contenu différent dans la version censurée, bien sûr. Spicy Detective introduit plusieurs personnages au fil des années. Quelques-uns sont devenus importants. Par exemple, Dan Turner, le Hollywood Detective, donc le détective hollywoodien. C'est un détective privé, rude, charmant, dont la plupart des histoires se déroulent...
Il est rude et charmant en même temps.
Oui, effectivement.
Okay.
Oui, oui, ben pour faire plaisir aux dames. Pour faire plaisir aux dames. Il fait plaisir aux dames. Qu'est-ce que tu veux? Ben, c'est pour ça, c'est spicy quand même. Donc, l'action se déroule d'habitude.
Oui, ben, parce que quand je vois son visage... C'est lui, hein?
Non, ce n'est pas lui.
C'est pas lui, là.
Ce n'est pas lui. Non, j'ai apporté un exemple de couverture. Là, c'est un policier. Et tu peux voir sur la couverture, la femme est légèrement habillée.
Oui, elle est légèrement habillée. Lui, avec son pistolet, d'ailleurs.
Voilà.
Il est en train de la secourir.
Voilà.
Oui, oui. Elle ressemble un peu à Marilyn Monroe, hein?
Oui, mais là, on est dans les années 30. Là, c'est elle. Donc, Dan Turner, ça se passe à Hollywood. Ça implique des personnes qui œuvrent dans l'industrie du cinéma, des stars, des cascadeurs, des producteurs, tout ça. Et en 1947, il y a même eu une version cinématographique qui a été faite des aventures de Dan Turner. Autre personnage, et on y arrive maintenant, le personnage selon moi le plus intéressant, c'est Sally the Sleuth.
Sally the Sleuth.
Voilà, une des rares femmes détectives de la période. D'ailleurs, toutes les femmes, toutes les détectives au féminin, disons, sont apparues dans les magazines, les pulp magazines. Il n'y en a pas eu dans les comic strips, donc dans les journaux, et non plus dans les comic books à l'époque, dans les années 30. Sally the Sleuth a été créée par Adolphe Barrault et apparaît à tous les mois dans son propre comic strip dans le magazine Spicy Detective. Donc, quand je dis sleuth, c'est comme tu l'as dit tantôt, S-L-E-U-T-H. Sleuth, c'est un autre mot qui est employé pour désigner détective. Alors, la semaine passée, on avait Dick pour désigner détective, et on a Sleuth. C'est la même chose.
Qui vient, voilà, c'est quelque chose comme ça.
C'est genre. La même chose. Mm-hmm. Donc, c'est un comic strip de 2 pages, en noir et blanc, donc seulement 12 panneaux.
Oui, il n'y a pas de couleur, là. Oui.
Non, c'est effectivement. Effectivement. Et ça suit les aventures de Sally the Sleuth, qui est une détective audacieuse, curieuse, enjouée, qui est sûre d'elle et qui est à l'aise surtout avec son corps, surtout en présence des hommes. Et le scénario est presque toujours le même. Au départ, Sally, qui est tout habillée de façon professionnelle, est envoyée par son patron, The Chief, pour enquêter sur un criminel. Au cours de l'enquête, elle est souvent capturée, puis elle est secourue par soit son assistant Peanuts ou par The Chief lui-même, et elle termine toujours ses aventures dans un état de déshabillage avancé. Donc, soit en sous-vêtements, soit à moitié nue. Donc oui, c'est totalement gratuit, mais... C'est fait pour titiller le lectorat, ça c'est clair.
Oui,
mais c'est jamais présenté de
le
manière
sexuelle. Le lecteur de l'époque.
Oui, voilà. C'est jamais présenté de manière sexuelle. Il y a pas de jeu de séduction entre le personnage de Sally de Sleuth
et les autres. Elle faisait son boulot.
Voilà, oui. Absolument. Mm-hmm. Et c'est ce qui est assez drôle quand même de voir certaines des cases, surtout les dernières cases de ses aventures. On la voit à moitié nue. Et elle parle normalement à son patron ou au criminel, puis comme si de rien n'était. Il y a aucune pudeur, il y a pas de problème.
Pas de gêne, quoi.
Pas de gêne, voilà. Oui. Donc c'est coquin, sans plus. Sally est totalement à l'aise, et jamais embarrassée. Et aussi, on retrouve dans les aventures de Sally de Sleuth un côté donc frivole, mais également le strip aborde des thèmes un peu plus sérieux. Et même sombres, comme le meurtre, le kidnapping, le cannibalisme, la consommation de drogue, même la torture. Bref, Sally de Sleuth, c'est ni l'archétype de la femme fatale qui utilise sa sexualité à ses fins, ni la victime innocente. Et débrouillarde, elle prend les choses en main, mais elle finit toujours par se retrouver sans vêtements. Oui. D'ailleurs, c'est un des attraits principaux pour les lecteurs de l'époque. On veut savoir comment Sally va se retrouver presque nue ce mois-ci. Les aventures de Sally se sont poursuivies jusque dans les années 40 et même les années 50, dans d'autres publications, mais à partir des années 40, le ton est devenu beaucoup plus sérieux, ses aventures deviennent beaucoup moins aguichantes, il n'y a plus de nudité, il n'y a plus de... les vêtements ne sont plus retirés à la moindre escampette.
Toujours habillé, voilà. Normalement, elle fait son travail sans toutefois vouloir allumer avec ses soutiens-gorge et puis seulement le...
voilà.
Le son.
Et c'est en 1953 que le personnage fait sa dernière apparition. Elle n'est jamais revenue depuis. Jamais revenue quand même.
Ils l'ont soutiré complètement de la série, quoi.
Ouais. Et il n'y a pas personne qui a voulu reprendre ce personnage. Et il y a il y a une bon, je disais pas une campagne parce que c'est quelques personnes sur Internet qui font pression, disons, pour le retour de ce personnage.
Personnage
parce que c'est quand même un personnage, comme on peut dire, iconique. C'est un des premiers personnages fort féminins dans les années 30. Bon, bien sûr, il y a le côté lascif, tout ça, mais bon. Ah ben non, je délaisse complètement les magazines et puis je reviens au comic book avec en 1937 l'apparition de Detective Comics de la maison d'édition National Allied Publications qui, peu de temps plus tard, va devenir DC Comics, DC pour Detective Comics. C'est donc en mars 1937 qu'est publié Detective Comics numéro 1, un comic book anthologie. Donc...
Moi, quand j'entends DC, c'est District Columbia.
Exact, mais non, c'est vraiment Detective Comics. Donc, c'est un comic book qui contient plusieurs histoires différentes. Majoritairement, ce sont des histoires de détectives à la dure. Des détectives qui viennent résoudre les crimes avec violence plutôt qu'avec ingéniosité. Detective Comics contient aussi d'autres histoires qui n'ont pas de lien avec l'intrigue policière. Ce qui est intéressant, c'est sa couverture. Disons-le, assez controversé.
Oui.
On y montre, en gros plan, le visage de Ching Long, qui, on l'apprend dans la publication, est membre d'une organisation criminelle asiatique. Mais ça s'arrête
là. J'ai vu les traits asiatiques, je me suis dit, mais qu'est-ce que fait ce personnage-là dans un comic book américain?
Ça s'arrête là. On montre pas d'illustration de détective, de policier, juste le visage d'un personnage qui a l'air menaçant et qu'il faut l'admettre qui est très stéréotypé. C'est le typique asiatique à la Fu Manchu. Là.
Mais comment les Asiatiques de l'époque ont réagi à ça?
Il y avait aucun tollé. Disons que c'était pas pour le même... C'était pas destiné au même lectorat, donc non, il n'y a pas eu de tollé.
C'était même pas sur le marché asiatique.
Non,
c'était
du tout.
Le marché américain et autre, là, voilà.
Du tout. Donc, mais la raison pourquoi on a fait un tel choix, ça n'a jamais vraiment été expliqué. D'un point de vue marketing, c'est mauvais, parce que ça dit absolument rien sur le contenu du livre, de la publication. Et bien sûr, ça sous-entend une xénophobie assez claire envers les Asiatiques. D'ailleurs, la majorité des criminels de la publication sont d'origine asiatique. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est considéré comme un objet de collection, Detective Comics numéro 1, parce que c'est le premier numéro d'une nouvelle série, mais avec un gros bémol. La couverture et le contenu posent un véritable problème pour les collectionneurs. Il y en a qui préfèrent passer leur tour et ne pas...
Oui, ça, c'est la couverture de mars 1937.
Voilà, c'est le premier numéro.
Et ça se vendait à 10 cents.
Exact. Mais pour l'époque, c'était
cher. Beaucoup d'argent.
Absolument. Absolument. Oh, wow. Parmi les détectives qui sont présentés dans le premier numéro de Detective Comics, on retrouve Slam Bradley, qui a été conçu par Malcolm Wheeler Nicholson, un des propriétaires de DC Comics à l'époque, et qui a été développé par Jerry Siegel et Joe Shuster, les futurs créateurs de Superman. Sa première histoire à Slam Bradley s'intitule The Streets of Chinatown. Voilà, ça, ça se déroule.
Ça revient encore avec les Asiatiques.
Voilà.
Chinatown, voilà.
Exactement. Slam Bradley, c'est un détective privé pur et dur qui n'hésite pas à utiliser ses points pour faire passer son message. Il aime travailler pour les dames, mais préfère la compagnie de son acolyte Shorty Morgan. D'ailleurs, d'un point de vue visuel, le contraste est assez frappant. J'ai même apporté un exemple pour toi, Fulgence. Slam est grand, beau, musclé.
Oui.
Shorty est petit, avec des traits exagérés, très cartoonesque, hein, un gros nez.
Il a sa coupe de cheveux.
C'est ça, des lignes en guise de cheveux. Disons que c'est un mix de Popeye et de Charlie Brown. Donc ça fait c'est un contraste, hein, le réalisme et l'aspect cartoonesque du personnage de Shorty. Slam Bradley s'en prend habituellement des criminels ordinaires, des membres d'organisations criminelles, mais aussi des personnages fantastiques, des magiciens, des créatures, des extraterrestres. C'est un personnage qui aimait se déguiser aussi, ce qui apportait un élément un peu plus loufoque à la bande dessinée.
Ouais, dans ce numéro que j'ai ici, il est en train de les manipuler là.
Absolument, il est capable
cadeaux,
de s'en
hein.
prendre à quatre personnes en même temps.
Ouais, là ils sont voilà, je me suis dit mais quels sont ces visages jaunes qui sont là? Ils se maquillent ces gens-là, ils sont cagoulés. C'était
la représentation des personnages asiatiques. Encore. C'était ce jaune Encore. Vraiment vif là, et tu le vois les visages. Les traits sont très exagérés.
Les yeux bridés, tout ça. Là,
voilà, très exagérés. Peu flatteurs, disons. Pour établir le personnage, le concepteur a écrit à Jerry Siegel le 13 mars 1936. Il voulait lui faire part de sa vision, là, comment il voyait le personnage de Slam Bradley. Et j'en ai un extrait. « Nous avons besoin de plus de travail de votre part. Nous avons besoin de 16 pages par mois. » Nous voulons un héros détective appelé Slam Bradley. Il devrait combiner à la fois le cerveau et la bagarre. Profitez de chaque occasion pour le montrer dans une chemise déchirée, avec des biceps gonflés et un torse puissant.
Ah, il les a, hein, les biceps, il les a.
Voilà.
Ici, avec la chemise courte, les manches courtes qu'il a là, je...
Mais c'est fascinant, pareil, à la conception, on le dit, là. Représentez-le avec une chemise déchirée, les biceps, tout ça, là. C'est vraiment un personnage spécial. Il a été publié dans Detective Comics jusqu'en 1949, puis il faut attendre à 1981 afin de le revoir dans un comic book, dans le numéro 500 de Detective Comics. Mais cette fois-là, il est représenté plus traditionnellement, un détective traditionnel, chapeau imperméable, cigarette au bec, tout ça. Également dans Detective Comics numéro 1, on retrouve Speed Saunders. Speed Saunders, il fait la couverture du numéro 4. Et il apparaît sur 11 des 25 premières couvertures de la publication. C'est un autre détective comme les autres. Il ressemble beaucoup d'ailleurs à Dick Tracy, qu'on a parlé la semaine dernière. Il y a plusieurs autres détectives durant la période. Il y a Buck Marshall, un détective du Far West. Le Crimson Avengers, qui est le premier super-héros à apparaître dans Detective Comics. Et tiens, je vais terminer là-dessus.
Oui, pour terminer.
Oui, j'en ai un que j'aimerais souligner, simplement parce que c'est son nom qui m'a attiré, parce que j'ai aucune information sur ce personnage. C'est le Captain Satan, King of Detectives.
C'est pas celui-là.
Non, ça c'est Slam Bradley.
C'est Slam Bradley.
Non, pardon, c'est Speed Saunders.
Ah, ok.
Non, c'est le Capitaine Satan, le roi des détectives, qui a son propre magazine à partir de 1938. Pendant 5 numéros seulement, ça n'a pas fonctionné.
Il n'a pas un regard attendrissant.
On n'explique pas pourquoi il s'appelle Capitaine Satan. J'ai eu aucune information
sur
Max le personnage.
Of the Damned. Ça, c'est le Max du Damné, ça. Capitaine Satan, le King of the Decimals. Ouais, bon, ça,
c'est... C'est quand même assez spécial. Pour ça, ça a duré seulement 5 numéros. Quand
voilà,
même.
Non.
Puis tiens, je termine là-dessus. Pour revenir sur Detective Comics, c'est encore publié de nos jours. La série est rendue au numéro 1064 dans un format comic book standard, donc une trentaine de pages. Ce n'est plus un comic book anthologie comme tantôt. Et ça met aujourd'hui en vedette un seul et unique personnage qui préfère la compagnie des chauves-souris. Un personnage qui fait sa première apparition en 1939 dans Detective Comics numéro 27.
C'est qui ça?
Celui qui va être surnommé le plus grand détective au monde. Et je parle bien sûr
de Batman.
Et...
Batman.
Et oui, Bradley.
J'aime bien ce personnage-là. Slam Bradley. Le nom même, ça sonne vraiment détective, quoi.
Ben, ça sonne quelqu'un qui utilise ses points, là. On s'entend.
Soit il est classique, il est bien.
Ouais.
Mais quand il se met en chemise manche courte, on voit ses biceps, on voit ses muscles, en train de tabasser les voyous, là.
Exact. Bon, il le fait à chaque édition, là. Voilà. C'est vraiment, ça revient.
Et là, avec son petit compagnon, son petit complice, tout petit, là, il me fait penser un peu à Tintin.
Exact.
Avec sa coiffure, tout ça. Ouais. J'ai dit, bon, merci beaucoup à toi.
Ben, ça fait plaisir.
De nous faire découvrir ce monde.
Et la semaine prochaine, un petit avant-goût. On est à l'approche de l'Halloween. Oui. On va avoir une chronique halloweenesque la semaine prochaine.
Halloweenesque.
Voilà.
Allez, bon week-end à toi.
Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Aqua monachi.
Acoustique, voilà. Alors, terminé comme ça les dernières minutes de l'émission, comme ça pour aujourd'hui c'est fini, bon ben c'est la fin de semaine. Je reviens un peu encore rapidement là-dessus, la 39e édition de la clinique juridique téléphonique du jeune barreau de Montréal qui commence demain. C'est deux journées de 9h à 16h. Voilà, 22 et 23 octobre. Le numéro de téléphone, je vous redonne ça, c'est le 1-844-779-6232. Je reviens. 1-844-779-6232 de 9h à 16h. Le 22 et le 23 octobre, c'est la clinique, la 39e édition de la clinique juridique téléphonique du jeune barreau de Montréal. C'est cet organisme, durant comme ça, c'est deux fois dans l'année, je pense bien en avril et puis en octobre comme ça, que les avocats, les jurys se mettent ensemble pour répondre à toutes vos questions sur le plan juridique, bien sûr. C'est l'intervenant majeur et incontournable en ce qui concerne la défense, la promotion des intérêts de ses membres aussi. Bien sûr, il faut pas l'oublier. Mais, durant ces deux journées-là, ces gens, ces avocats, ces juristes font du bénévolat. C'est pas payant, c'est gratuit. Vous appelez, vous allez avoir des réponses à toutes aux questions que vous posez. Voilà, n'hésitez pas, préparez vos questions avant de les appeler. Ne les appelez pas et puis en train de penser « Oh, je voulais savoir », en train de tituber, tout ça. Préparez vos questions avant de les appeler au 1-844-779-6232. C'est la clinique juridique téléphonique du jeune barreau de Montréal. Voilà. Et bon, je vais parler un peu de concert en lien avec l'exposition à plein volume, parce qu'il y a de la musique au Musée des Beaux-Arts de Montréal, à la salle Bougie. C'est très important, les différentes dates, là. Et ça, quoi ça sert? Qu'est-ce que ça... J'en ai déjà parlé, mais je reviens là-dessus. C'est la salle Bougie qui invite le grand public à venir assister à ces 6 concerts en lien avec l'exposition à plein volume de Basquiat et la musique à l'affiche de la musée et au Musée des Beaux-Arts de Montréal depuis le 15 octobre jusqu'au 19 février 2023. Voilà, jusqu'au 19 février 2023. Faisant écho à cette exposition, ces concerts donnent à entendre ce que l'exposition donne à voir en explorant les liens étroits existants entre la musique, la vie et l'œuvre de l'artiste new-yorkais Jean-Michel Basquiat. Ce dernier a toujours baigné dans la musique et celle-ci traverse son art. Proposer des concerts en lien avec son œuvre à l'aide de soi, bien sûr, afin de célébrer les legs et l'influence de cet artiste phénoménal. Ceux-ci se valent en quelque sorte le miroir des sons qu'il a traduit en peinture. Ah, il faut le faire, hein. Et qui contribue d'ailleurs à une meilleure compréhension de son processus créatif. Mélomane invétéré, Basquiat possédait une vaste collection comprenant plus de 3000 albums couvrant de nombreux genres musicaux qui le fascinaient. Jazz, hip-hop, blues, bebop, opéra, musique classique, etc., etc. Et tout le captivait. Il résidait à New York dans les années 70-80, au moment où la ville vivait l'une des périodes les plus effervescentes au plan musical. Ses goûts musicaux éclectiques se trouvent transposés à divers endroits dans son œuvre. Faut pas le rater, ça il faut le dire. J'ai encore du temps, je peux donner les dates. Oh ouais. Et puis Les dates? Ouais. Le 27 octobre, jeudi. Voilà. C'est à 20h. Et le mercredi 2 novembre, c'est à 20h aussi. Jeudi 24 novembre, c'est 19h30. Jeudi 26 janvier 2023, c'est à 18h. Et le jeudi 2 février 2023, à 20h. Vendredi 17 février, c'est à 20h. Voilà, ça c'est comme ça. Alors, ça finit pour aujourd'hui. Merci à toi, Maurice. Je sais que tu pars en vacances. Belles vacances. Repose-toi bien. Tu nous reviens en forme. Hein? Maurice Dolbolduc à la régie, à la technique. Allez, bonnes vacances à toi. Merci aussi à notre invité qui est venu parler de ce documentaire Au-delà des mots, Paroles de proches aidants, Stéphanie Charette, qui est directrice des communications et des relations publiques chez Appui, et de Christian Lacasse, le chroniqueur de Comic Book, qui est venu nous faire voir encore des images à travers ces récits. Merci à vous, chers fidèles auditeurs et auditrices. Prenez soin de vous. Belle fin de semaine ensoleillée à vous, si on croit à ce que les spécialistes disent. Sur ce, je vous dis ciao et prenez soin de vos minutes.